Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, le Parlement a-t-il son mot à dire sur les questions militaires ? Comme une lettre à la poste, le Sénat a adopté mardi dernier le projet de loi de programmation militaire pour la période 2019-2025. 326 voix pour, 15 contre. Fin mars, les députés les avaient précédés en votant la hausse du budget des armées avec le même enthousiasme. 389 voix pour, 37 contre. Scrutin sans surprise, le consensus est souvent de rigueur sur les questions de défense, étant entendu que c'est l'exécutif qui décide et le Parlement qui valide. Alors, l'Assemblée nationale et le Sénat ne sont-ils pour autant que de simples chambres d'enregistrement dans ce domaine ? Le fait est que leurs prérogatives sont limitées, en tout cas a priori. Ainsi, les parlementaires peuvent-ils n'être informés que 3 jours après le déclenchement d'une intervention militaire ? Ainsi, n'ont-ils leur mot à dire sur le prolongement de cette intervention que si elle excède une durée de 4 mois ? En matière de défense, l'essentiel du pouvoir du Parlement s'exerce donc a posteriori, dans le contrôle par exemple de l'exécution des lois, ce sera le cas pour la nouvelle loi de programmation militaire. Il peut aussi procéder à des missions sur le terrain, mais celles-ci sont rares, peut-être trop rares d'ailleurs. Alors le Parlement a-t-il vraiment son mot à dire sur les questions militaires ? C'est la question du soir en compagnie de 3 invités. Henri Bintéja, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes militaire, vous avez le grade de général, vous avez été le chef d'état-major des armées de 2002 à 2006, vous avez ensuite dirigé le comité militaire de l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est le comité militaire ?
C'est le comité des chefs d'état-major européens, si je puis dire. Voilà, ils se réunissent 2 fois par an, mais ils sont représentés en permanence à Bruxelles.
2e invité, Jean Johanna, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Montpellier 1, co-auteur d'une étude pour l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. C'est en 2012, mais le thème est pile en phase avec notre sujet ce soir, puisqu'il était intitulé « Évolution du contrôle parlementaire des forces armées en Europe ». Eh bien, on verra justement si ça a un petit peu évolué, s'agissant de la France, depuis 2012. Et puis 3e invité, Christian Cambon, bonsoir.
Bonsoir.
Sénateur du Val-de-Marne, vous présidez la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat. Et vous étiez en mission parlementaire à la mi-mars au Niger et au Mali auprès de l'opération Barkhane. Alors l'opération Barkhane, c'est la principale OPEX, OPEX pour opération extérieure de l'armée française, avec 4500 hommes qui sont aujourd'hui déployés dans le Sahel. Elle avait pris la suite de l'opération Serval qui était uniquement cantonnée sur le Mali. Christian Cambon, quel était l'objet de cette mission ? Vous étiez 3 parlementaires, c'est ça ? 3 sénateurs en l'occurrence ?
Tout à fait. Ce sont des missions habituelles et qui sont assez fréquente. Enfin, nous en organisons 3 ou 4 par an, ce qui est assez lourd parce qu'il faut que les militaires aient la capacité de nous accueillir. Or, c'est le but principal de leur activité n'est pas de recevoir les parlementaires, mais ils le font avec beaucoup de gentillesse et beaucoup d'efficacité. Et donc, moi, depuis que je suis président de la commission, j'ai déjà été à 2 reprises sur Barkhane pour, dans un premier temps, préparer la loi de programmation militaire, car je voulais me rendre compte quels étaient les véritables besoins, les attentes de nos soldats. Aussi pour témoigner, car je pense que la présence de parlementaires dans ces endroits très difficiles, où la vie quotidienne n'est pas rose tous les jours, je pense que c'était un signe de reconnaissance, d'amitié que nous souhaitions apporter à nos soldats. Et puis vous savez, le fait de voir de ses yeux, ça vous apprend l'équivalent de, non pas beaucoup de cours universitaires, monsieur le professeur, mais beaucoup de rapports. Et donc, il y a beaucoup de choses que l'on voit et qu'on peut pas vous cacher. Et du reste, on ne les cache pas, mais on se rend compte, effectivement, et je pense que ça fait partie de la mission de contrôle.
Henri Bintéja, Christian Cambon nous a dit, on a été accueillis avec beaucoup de gentillesse. Du côté des militaires, le fait de voir arriver des parlementaires, est-ce que c'est vu plutôt d'un bon oeil en se disant, bah, tiens, c'est bien, au moins les élus de la nation s'intéressent à nous, ou bien est-ce qu'il y a aussi peut-être une forme d'appréhension en se disant, attention, ils vont peut-être mettre le nez là où on n'a pas envie qu'ils aillent trop regarder?
Très franchement, c'est un sentiment qui est plutôt positif. Je dis plutôt positif parce que, comme l'a souligné tout à l'heure Monsieur Cambon, il est clair que quand on est dans ce genre de mission, on chôme pas et que le poids, la charge que représente une arrivée de parlementaires est chaque fois vécue comme un surcroît de soucis. Mais fondamentalement, je veux dire, ce que savent les chefs militaires, en tout cas, et ce que comprennent très vite nos jeunes, c'est que sans le soutien de la nation, les missions, de toute manière, échoueront. C'est-à-dire, une opération ne peut pas réussir, on l'a bien vu au Vietnam avec Johnson, la mission ne peut pas réussir s'il n'y a pas le soutien de la nation.
Donc il s'agit de tout faire pour que les parlementaires qui viennent repartent convaincus de la pertinence de l'opération qui est en cours ?
Non, Ça, je crois pas. D'ailleurs, quand on lit attentivement le rapport qu'a réalisé M. Cambon, on voit bien qu'en réalité, tout n'est pas rose, loin de là, et que les militaires ne le cachent pas. Et notamment, les militaires ne cachent pas dans ce rapport qu'ils ont quelques doutes sur la possibilité pour le G5 Sahel de leur succéder. Non, ce que je crois surtout, c'est que nous, les jeunes qui sont là-bas ont besoin de savoir que la France n'est pas indifférente à leur sort.
Alors, il y a effectivement ce rapport sénatorial dont on évoquera dans un instant les conclusions. Il y a aussi un autre rapport que j'évoquais en début d'émission, celui que vous avez rédigé, Jean Joanna, pour l'IRSEM. Rapport dans lequel vous expliquiez notamment que lorsqu'il y avait ces missions sur place, ces missions parlementaires, c'était toujours des missions extrêmement encadrées et organisées par le ministère de la Défense. C'est-à-dire que, alors sans aller peut-être jusqu'à une forme de village Potemkin, mais enfin, en tout cas, on essaie de montrer que le positif aux parlementaires qui se déplacent.
Je crois que vous forcez un peu le trait.
Je le fais un peu exprès.
je crois que dans le cadre de ces missions, vous évoquiez tout à l'heure la possibilité pour les militaires de démontrer ou pas la pertinence de la mission. Je crois que ce qu'il faut quand même voir, c'est que souvent la question de la pertinence de la mission, c'est pas tellement les militaires qui doivent la défendre, c'est plus les politiques qui la décident et qui envoient les militaires sur le terrain. Donc, je crois que ce genre de mission, et de manière générale, tout le travail parlementaire qui peut être fait justement sur les forces armées, souvent pour les militaires, c'est une manière de susciter de la délibération, finalement, du débat public sur les questions militaires, et de sortir d'un dialogue qui souvent, en interne, est un dialogue qui est limité entre le ministère de la Défense, par exemple, et Bercy, sur des questions très, très budgétaires. Donc je crois que ces missions aussi, hein, peut-être monsieur le sénateur me démentira, mais c'est aussi pour les militaires souvent l'occasion de faire remonter un certain nombre d'attentes ou de besoins qu'ils éprouvent justement sur le terrain en termes de matériel, d'hommes, de financement, etc.
Les parlementaires français d'ailleurs participent beaucoup à ce genre de missions par rapport peut-être à leurs collègues européens ?
Alors, les parlementaires français ont ce genre de pratique, évidemment, ce genre de mission. C'est vrai que de manière générale, notamment dans le cadre du rapport que nous avions fait à l'époque, on s'était un peu intéressé aux moyens dont disposaient les commissions de défense dans les différents pays européens ou aux États-Unis. Mais on s'aperçoit que les différences peuvent être extrêmement importantes. Alors, j'ai un peu révisé avant de venir, mais par exemple, pour la commission de défense du Congrès américain, dispose de mémoire d'une cinquantaine de staffers, c'est-à-dire de conseillers qui sont spécialement affectés à cette commission, avec un budget qui doit tourner aux alentours de 5 millions d'euros par an. Je crois que dans le cadre de la commission de l'Assemblée nationale, on doit tourner aux alentours d'une douzaine de personnels et un budget qui est 150 000 euros, je crois, par an. Donc effectivement, c'est des moyens qui sont très différents et qui ont un impact sur les capacités d'investigation des parlementaires sur ce genre de questions.
Capacité d'investigation d'ailleurs. Christian Cambon, quand vous réalisez une mission donc, comme celle du mois de mars, je rappelle, rappelez-moi où c'était, les pays, je les ai oubliés, dans Niger et Mali, voilà, ça y est, ce qui font partie donc, de ces pays du Sahel qui sont concernés par l'opération Barkhane. Est-ce que vous avez la possibilité de poser toutes les questions que vous souhaitez en obtenant des réponses? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une obligation de réponse? Est-ce que vous pouvez aller là où vous le souhaitez?
Absolument. Non seulement on a la possibilité d'aller où on le souhaite, dans le respect des règles de sécurité, car on ne va pas effectivement pour inspecter des garnisons sur le territoire national. Enfin, on le fait, mais dans d'autres conditions. Mais j'allais presque dire, c'est un petit peu la condition de notre déplacement. Moi, je me souviens très bien, une des premières missions que j'avais fait, j'étais seulement vice-président de la commission, et c'était à Bangui, et on était visiter le camp de Mpoko, qui était un camp qui posait beaucoup de problèmes.
Donc en Centrafrique.
Et moi, je me souviens très bien de la parole du ministre, Jean-Yves Le Drian, qui m'a dit « Tu me dis ce que tu vois ». Et j'ai eu l'occasion de lui dire ce que je voyais. Quand j'ai vu qu'il n'y avait qu'une douche pour 1000 soldats, j'ai dit qu'il n'y avait qu'une douche pour 1000 soldats. Quand il n'y avait que 3 machines à laver pour 1000 soldats, j'ai dit qu'il y avait 3 machines à laver pour 1000 soldats. Et je pense que ça a contribué à ce que dans l'année qui suit, les moyens s'améliorent, car les conditions étaient extrêmement compliquées, difficiles. C'était pas des erreurs de management, c'était simplement que les conditions d'hébergement et les missions qu'assuraient nos armées là-bas étaient assez compliquées. Donc la même chose à Gao, moi j'ai séjourné, j'ai souhaité dormir du reste. Les conditions, elles sont raides, hein, mais je crois que c'est pas tellement là que porte l'examen de ce que nous faisons. Moi, ce qui m'intéressait à la veille de la LPM, c'était l'état des matériels, par exemple. Hein, et on voit très bien l'usure prématurée des matériels dans ce genre d'opération, ce qui nous a conduit à déposer un amendement, qui j'espère va être confirmé par la CMP, qui vise à ce que on prenne en compte l'usure prématurée des matériels dans les OPEX, parce que le matériel s'use plus vite dans le désert qu'il ne s'use à Saint-Étienne.
Je vous entendais l'un et l'autre, Christian Cambon et Henri Bintéja, qui essaient à ce que disait Jean Johanna sur le fait que ces missions, elles servent aussi un peu à porter la parole des militaires auprès du pouvoir, en l'occurrence du pouvoir exécutif. C'est aussi comme ça que l'on conçoit que sont ces missions parlementaires du côté de l'armée, Henri Bintéja.
C'est-à-dire qu'un de nos soucis constants, si vous voulez, c'est que la défense ne soit pas vue seulement sous le prisme budgétaire. Parce que c'est malheureusement la tendance. La commission des finances, en tout cas à l'Assemblée nationale, est extrêmement puissante. Et elle est souvent plus puissante que les autres. Et pour avoir eu affaire à cette commission, moi-même, quand j'étais chef d'état-major, je sais le poids qu'elle a dans les décisions finales. Et donc, pour nous... pouvoir parler de tout le reste, et pas seulement des équipements, mais aussi pouvoir parler des conditions dans lesquelles on intervient, des problèmes d'effectifs qu'on a souvent, des problèmes divers d'entraînement qu'on peut avoir, bien sûr. Mais en contrepartie, je veux dire, il ne faut pas ignorer une chose, c'est que ces missions parlementaires, pour nous, peuvent être aussi quelquefois un peu risquées. C'est-à-dire que les parlementaires peuvent mettre le nez sur des choses qui tournent pas très rond. Moi, je me souviens d'un rapport l'année dernière de Monsieur Cornu-Gentil, que je connais bien, un député, sur le transport aérien militaire, qui avait fait beaucoup de bruit, qui avait fait assez mal dans l'état-major, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des défaillances graves.
Mais c'est un fait.
Mais c'est un fait.
Le transport aérien de nos forces armées est un petit peu déficient, on le sait, et du reste, on va tenter de le corriger au cœur de la LPM.
Est-ce que ça veut dire, Jean Johanna, qu'il y a un réel pouvoir aujourd'hui qui est aux mains des parlementaires, à condition qu'ils aient les moyens financiers et aussi la volonté de l'utiliser, mais un réel pouvoir avec un impact sur des décisions politiques dans le cadre de ces missions auprès des militaires qui sont mobilisés pour les OPEX ?
Je crois que oui, ils peuvent effectivement susciter un vrai débat autour de ces questions, sachant qu'après, effectivement, lorsque les décisions doivent être prises, il y a des logiques beaucoup plus strictes qui se mettent en place, hein, qui tiennent à la fois, effectivement, peut-être aux spécificités des questions de défense, hein, qui suscitent pas forcément énormément de débats, ni dans le débat politique ou dans les médias, etc. Et puis qui tiennent aussi, tout simplement, aux logiques du parlementarisme majoritaire, hein, qui fait que effectivement, dès lors qu'un gouvernement dispose d'une majorité à l'Assemblée nationale ou au Sénat, forcément, les propositions qu'il fait sont pas forcément scrutées de manière très très approfondie ou remises en cause par les parlementaires.
Bah, c'est vrai qu'on peut pas dire par exemple que la mission que vous avez effectuée, Christian Cambon, elle ait provoqué beaucoup de débats et politiques et médiatiques. Cette mission, elle a pourtant été suivie d'une communication, mais oui. Il n'y a pas eu, si j'ai bien compris, de publication d'un rapport qui aurait peut-être pu être davantage porté dans les médias. Est-ce que ça, c'était quoi ? C'était une volonté, parce que oui. Les conclusions étaient un petit peu quand même pessimistes, de ne pas décourager les militaires sur place ?
Non, ce n'était pas du tout le but. C'est notre méthode de travail, c'est-à-dire que sur les missions de ce genre, il y a ce qu'on appelle des communications qui sont intégralement retransmises sur le site internet du Sénat et qui sont du reste amplement consultées, y compris par des journaux satiriques, ce qui est une bonne chose.
Parce que c'est le canard enchaîné qui nous a mis la puce à l'oreille.
Voilà.
L'émission de ce soir.
Mais il n'y avait pas fatalement la volonté de faire du tam-tam autour de tout ça. Moi, le premier témoignage que je veux apporter sur ce que j'ai vu, c'est l'engagement extraordinairement admirable de nos troupes dans ces sites qui sont extrêmement exposés et difficiles.
Sauf que vous dites aussi qu'il y a un piège pour l'opération Barkhane, celui de l'enlisement.
Oui, mais parce
que... Donc là, il y a peut-être de quoi justement en parler, en débattre.
Il y a deux niveaux. Il y a le niveau, j'allais dire, politique, l'engagement des forces françaises, qu'est-ce que l'on y fait, pourquoi on est là-bas. Et puis, il y a la mission pratique, c'est-à-dire qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que je peux, moi, en tant que président de la Commission de la Défense, apporter pour que les moyens, les conditions de vie s'améliorent. Et ce sont deux niveaux. Le parlementaire est mêlé aux deux. Certes, dans la Constitution... l'article 35, je crois, de la Constitution donne au président de la République le pouvoir d'engager ses opérations et l'obligation, qui est assez récente au demeurant, de saisir, d'informer par tout moyen je crois que ce sont les termes précis, d'informer par tout moyen le Parlement dans les 3 jours. C'est une information, ce n'est pas un vote.
En revanche, ça date de la révision de 2008.
2008. En revanche, si l'opération se poursuit au-delà de 4 mois, il y a un vote. Mais, et je le disais cet après-midi à la commission de contrôle de l'action gouvernementale qui se réunissait aujourd'hui même au Sénat, une fois que vous avez donné l'autorisation une fois pour une OPEX, elle est éternelle. C'est-à-dire que vous ne revenez jamais, constitutionnellement, vous ne revenez jamais devant le Parlement pour dire on arrête, on continue, on met plus de moyens, on met moins de moyens. Et du reste, ça a donné lieu à des dérapages budgétaires, parlons un peu budget. On met dans le budget 400 millions d'euros et les OPEX coûtent 1 milliard, 1 milliard 2, 1 milliard 3.
Vous ça, le notez d'ailleurs dans la communication que vous avez faite au Sénat, disant que effectivement Barkhane a pris d'ailleurs le relais de Serval sans que le Parlement soit consulté sur cette régionalisation, puisque c'était une zone géographique beaucoup plus vaste qui est aujourd'hui remplie par Barkhane. Ça, vous y voyez une anomalie, même si c'est constitutionnellement ça ne pose pas de...
C'est une anomalie. C'est pour ça que nous demandons au gouvernement une chose qui est simple, c'est annuellement un rapport sur les OPEX pour dire voilà où on en est, voilà combien d'hommes sont engagés, voilà combien ça a coûté. Parce que sans ça, vous arrivez à ces effets de ciseaux que j'évoquais. Sur les 11 OPEX, il y en a 4 qui sont globalement terminés, mais il n'y a même pas eu de débat sur la fin des opérations. Et il y en a les 7 autres varient selon les nécessités du moment, sans que franchement le Parlement soit consulté. Alors certes, nous avons des moyens, c'est ce que m'a répondu cet après-midi le ministre en charge de ces choses, aux relations avec le Parlement. Il dit, mais vous avez les auditions, vous pouvez auditionner qui vous voulez, et les chefs militaires ont l'obligation de répondre. Ce qu'ils font, du reste, avec beaucoup de bienveillance. Mais si vous voulez, si on veut vraiment institutionnaliser le contrôle parlementaire sur ces opérations, il faut qu'on ait un tout petit peu plus d'éléments concrets, si vous voulez, financiers, mais aussi en termes d'effectifs, et puis d'autres notions sur lesquelles on pourra revenir. Moi, je pourrais vous parler du service de santé aux armées dans ces opérations extérieures. Il y a beaucoup de choses à dire, nous le disons.
Henri Bintéja, vous qui avez été chef d'état-major des armées, je rappelle, de 2002 à 2006, est-ce que vous êtes d'accord avec le sénateur Christian Cambon ?
Oui, bien sûr. Je vais vous dire, moi je réagis un peu en tant que chef militaire, là, et pas en tant que militaire tout court, en tant qu'ancien chef militaire, je crois que ce contrôle parlementaire accru, tel qu'il est pratiqué, déjà, on peut aller plus loin, comme le disait le président tout à l'heure, mais a deux vertus fondamentales pour un chef militaire. La première, c'est qu'il freine un peu les risques d'aventurisme. C'est-à-dire, bien sûr, le président peut toujours décider d'envoyer les armées où il veut. Vous savez, pour un chef d'État, c'est toujours tentant, parce que sur la panoplie du président de la République, c'est le bouton qui marche le mieux, on le sait, je veux dire, parce que c'est conçu comme ça. Donc, l'aventurisme, dans la mesure où il y a débat au bout de 3 jours, d'une part, et il y a vote après quand même une fois, même si on pourrait y avoir plusieurs fois. Et puis, deuxièmement, c'est une garantie aussi, à mon sens, contre l'illusion. Et c'est là que ce rapport cette mission que vient d'effectuer le président Cambon a beaucoup d'intérêt. C'est-à-dire, on vit quand même un peu aujourd'hui en France dans l'illusion que Barkhane, ça va bientôt se terminer, qu'on va pouvoir transférer la suite au pays de la région du Sahel, ce qu'on appelle le G5. Et ce que fait bien ressortir ce rapport, c'est que c'est pas vrai, c'est que c'est pas possible.
Et pour autant,
les militaires savent depuis longtemps.
Et pour autant, de manière, cette opération Barkhane continue. Et le Parlement n'a pas en soi le pouvoir de mettre un terme à cette opération, Jean Joanna.
Non, formellement, il n'y a pas de pouvoir de mettre un terme. Enfin, et dans la réforme de l'article 35, effectivement, il y a un réexamen régulier qui est prévu des opérations extérieures. Mais c'est vrai que, ne serait-ce que politiquement, pour les parlementaires, c'est quand même extrêmement difficile de s'opposer au gouvernement comme ça sur une opération en cours. Donc, c'est vrai que
Ça veut dire que ces pouvoirs-là qui ont fait partie de la révision constitutionnelle de 2008, quelque part, ils ne servent pas à grand-chose. C'est-à-dire, on imagine mal, finalement, un parlement, soit étant informé, alors dans un maximum de 3 jours après le déclenchement d'une intervention militaire, dire « bah non ». Nous, on est contre, donc on stoppe, soit dans le cadre d'un renouvellement, parce que les choses sont quand même suffisamment engagées, imagine, pour que ce soit un peu compliqué de revenir en arrière, non ?
Oui, c'est compliqué de revenir en arrière. Donc effectivement, les marges de manœuvre sont limitées. Mais je crois que le fait de susciter une délibération sur ces questions-là, la délibération en tant que telle a déjà une importance extrêmement forte.
Mais la délibération, est-ce qu'elle serait pas plus intéressante en amont, c'est-à-dire plutôt que de faire voter le Parlement ou de le faire débattre après, non, de le faire débattre avant.
Non, ça c'est la Constitution. Alors, il faut changer la Constitution, ce qui est un autre débat et qui n'est pas celui qui nous réunit ce soir. Mais moi, je suis...
quand même.
Non, mais aussi bien, vous le savez, moi je suis très vigilant à ce que le contrôle parlementaire s'exerce dans la plénitude de ses pouvoirs, aussi bien j'accepte l'organisation des pouvoirs tels que la Constitution l'organise. On pourrait parler de ce qui se passe en Allemagne, on appelle l'armée allemande une armée parlementaire, on ne tire pas une cartouche sans l'autorisation du Parlement. Et moi, quand j'ai... je vais vous donner cet exemple. Moi, j'ai appris, j'étais vice-président de la Commission de la Défense, j'ai appris que le précédent président de la République avait envoyé des rafales en Irak. Je l'ai appris par Le Parisien, édition Val-de-Marne, où je réside. Bon, quand j'ai raconté ça à mes collègues allemands, ils tombaient de l'armoire, si je puis me permettre cette expression un peu leste. Ceci étant, c'est comme ça que ça fonctionne en France.
Mais c'est pas parce que c'est comme ça que ça fonctionne qu'il faut que ça continue de fonctionner comme ça.
Non, mais en revanche, il est très important qu'après, le contrôle, sous toutes ces manières, je rappelle qu'on vote aussi le budget chaque année. Il y a quand même un vote du budget. Si on était véritablement en face d'une situation insensée où un président de la République lance les troupes françaises contre des objectifs qui sont non soutenables, je pense qu'on se manifesterait d'une manière ou d'une autre. Pour Barkhane, la réponse est très simple. C'est que tout le monde qui connaît un tout petit peu le dossier sait très bien que notre présence française est absolument nécessaire parce qu'elle protège notre propre sécurité, y compris en Europe. Et c'est ce qu'on essaie de faire comprendre à nos éminents collègues européens qui commencent à, effectivement, nous donner un petit coup de main, y compris sur le plan matériel.
Henri Bintéja, et je vous poserai la même question, Jean-Johanna, un vote préalable comme on peut l'observer en Allemagne, pourquoi est-ce que ça ne serait pas imaginable en France ? Alors au prix, certes, d'une révision constitutionnelle qui serait importante, mais pourquoi ne pas l'envisager ?
Alors, on pourrait très bien l'envisager, bien d'un point de vue, du point de vue du citoyen, j'aurais pas forcément d'objection. Du point de vue, par contre, du chef militaire, alors j'en aurais beaucoup.
Pourquoi ?
Pour rien vous cacher. C'est-à-dire, on a la chance en France, je dis bien la chance, depuis les débuts de la Ve République, d'avoir un système de décision qui est quand même très organisé. Hein. Je veux dire, ça se passe en Conseil de défense. Je veux dire, le président de la République prend pas ça assis sur le coin d'une table. Non, j'ai servi auprès de deux présidents de la République et je sais que les choses se font dans un ordre très précis après une étude de dossier en présence des principaux responsables,
y compris parlementaires.
Non, dans l'exécutif. Seulement, notre système est un système qui permet une formidable réactivité. Il n'y a que la France et les États-Unis dans les pays démocratiques, dans la démocratie traditionnelle, qui aujourd'hui sont capables de répondre de cette manière, de répondre aussi vite et aussi efficacement, si je puis dire, à des situations de crise qui se produisent.
Ça veut dire que s'il y avait débat préalable, il y aurait une moindre réactivité ?
Bien évidemment. On peut parler du cas de l'Allemagne, mais c'est frappant
ce qui s'est
partout
passé
en Europe.
Quand le président Hollande a lancé l'opération Serval, c'était une question d'heure. Quelques heures plus tard, et Bamako était aux mains des djihadistes. Le général pourrait parler de Colvézi. Enfin, il y a tout un tas d'opérations où il a fallu qu'à un moment ou à un autre, un président de la République fort des pouvoirs constitutionnels dont il est doté prenne cette responsabilité, qui est une responsabilité quand même assez lourde.
Je vous laisse poursuivre, Henri Bintéja.
Non, je veux dire, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire le président Comon. Cette réactivité, pour être honnête, tous les chefs militaires que j'ai connus et rencontrés l'ont toujours envié. Bon. Maintenant, ça a comme contrepartie, d'une part, effectivement, un contrôle parlementaire a posteriori, sinon on tombe dans l'aventurisme, dans le n'importe quoi, premièrement, et d'autre part, ça a comme contrepartie une très forte responsabilisation des chefs militaires. Je veux dire, pas le chef militaire agissant, le chef d'état-major des armées agissant en conseil de défense comme le conseiller du président de la République, il est officiellement conseiller du gouvernement, mais en réalité, c'est bien le président de la République, il est clair que il porte une part de responsabilité des décisions qui sont prises.
Jean-Johanna, cette chronologie dans la décision, est-ce qu'elle a déjà fait l'objet de débats depuis les débuts de la Ve République ou bien est-ce qu'il y a un consensus qui s'est installé, qui n'a jamais été remis en cause parce qu'on considère que les équilibres institutionnels sont peut-être les plus performants tels qu'ils sont aujourd'hui et aussi peut-être d'ailleurs parce que les questions de défense nationale supposent qu'il y ait quand même un minimum de consensus politique.
Oui, je crois que effectivement, bon, c'est une question qui est débattue ponctuellement, mais c'est vrai que de manière générale, cette idée que en matière de politique étrangère et de défense, le président de la République dispose de donc ce qu'on appelle d'un domaine réservé dans le cadre de la Ve République, qui n'est inscrit nulle part dans la Constitution. Hein, c'est vraiment une pratique qui s'est mise en place.
Les chefs des armées.
Pardon ?
Je dis, il est chef des armées.
Enfin, c'est il est chef, voilà, voilà. En vertu de ses pouvoirs de chef des armées. Et donc, du coup, c'est cette possibilité d'engager les forces en opération et pas remise en cause. Et c'est vrai que les exemples récents qu'on a pu avoir, hein, le projet d'intervention en Syrie, par exemple, en 2013, hein, où nos alliés britanniques, justement, par peur d'avoir un vote négatif du Parlement, qu'ils n'étaient pas obligés de demander, par ailleurs, hein, mais simplement par peur d'avoir un vote négatif, ont dû renoncer à une intervention. Et donc, effectivement, ça a fait capoter ce projet.
Et je pense que c'est cette capacité de réaction et de projection qui fait du reste la force et la réputation de l'armée française dans le monde entier. Pourquoi a-t-on l'armée qui est considérée comme une des plus puissantes d'Europe, si ce n'est la plus puissante? C'est parce que justement, il y a une capacité de décision et une mise en application opérationnelle qui est quasiment immédiate. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous appuyez sur le bouton, vous savez que 3 heures, 6 heures ou 12 heures après, les troupes sont sur place.
Il y a pourtant un élément de la Constitution. On est toujours dans l'article 35, donc qui évoque le rôle du Parlement. C'est le premier alinéa qui dit « La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement ». Comment se fait-il, finalement, Henri Berteja, que cet article-là n'ait pas été convoqué alors que la France mène des opérations extérieures? Elle s'est bien gardée de déclarer la guerre, justement, pour ne pas avoir à passer par le Parlement?
Il n'y a pas eu de déclaration de guerre depuis 1945. Nulle part dans le monde. C'est quelque chose qui est devenu obsolète. Vous savez, la déclaration de guerre, c'était quelque chose qui avait été plus ou moins inventé, à ma connaissance, je parle sous le contrôle d'universitaires, au XVIIe siècle, sous Louis XIV, et qui en fait a été abandonné après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'on avait eu tellement de catastrophes en tout genre, les gens avaient tellement triché autour de ces déclarations de guerre en plus, que ça a paru désormais inutile. Et puis on voulait plus la guerre, de toute manière. Donc c'était une manière de ne pas la faire. Et il n'y a pas eu de guerre, mondiale depuis 1945, on le sait. Mais aujourd'hui, on voit mal dans quelles circonstances on pourrait envisager un processus de déclaration de guerre. Honnêtement, je ne vois aucun cas possible.
Jean Joannin.
Et au-delà, effectivement, de cette raréfaction de la guerre, cette autorisation du Parlement à la déclaration de guerre, hein, elle existait déjà dans le cadre de la 4e République, elle existait déjà dans le cadre de la 3e. Et par exemple, ni en 1918, ni en 1939, le Parlement n'a eu son mot à dire sur la déclaration de guerre, hein, par la France contre l'Allemagne. Donc, c'est une pratique qui est extrêmement ancienne en France et dans la plupart des autres démocraties. Hein. Aux États-Unis, on parle de présidence impériale, hein, justement pour souligner le fait que là aussi le Congrès est censé, c'est le Congrès qui est censé déclarer la guerre, mais que dans les faits, depuis au moins la fin du 19e siècle, ce sont toujours les présidents qui ont pris l'initiative d'envoyer des troupes à l'extérieur.
Alors tout ça, c'est ce qui a trait aux interventions militaires. Et puis il y a donc notamment cette fameuse loi de programmation militaire qui a été votée par l'Assemblée nationale avec une forte majorité, par le Sénat avec une majorité encore plus importante, hein, si on regarde justement les pourcentages, Christian Cambon. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu vraiment de débat sur cette loi de programmation militaire, sachant qu'alors il y a encore une commission mixte paritaire qui doit se réunir pour voter sur un texte identique? Et qu'est-ce que les débats, s'il y en a eu, ont apporté au texte final?
D'abord, les débats ont été nombreux, ils ont été nourris. Moi, j'ai envoyé plusieurs équipes de sénateurs dans les différentes armes. Moi-même, je me suis déplacé dans chaque arme pour avoir le témoignage, non seulement des chefs militaires, mais aussi des hommes. Et vous apprenez, même en 2 jours, vous apprenez énormément de choses. Hein. C'est très intéressant. Mais ça nous a permis de mettre le doigt sur les faiblesses de la loi. Et si vous reprenez le fil des débats, j'étais le rapporteur, donc je sais à peu près encore ce que j'ai dit la semaine dernière. Nous nous sommes félicités des intentions, car c'est une loi volontariste qui pose un certain nombre de principes dans lesquels nous nous retrouvons, mais qui malheureusement a des faiblesses et repose sur des défis dont on n'est pas sûr qu'ils soient tenables. Les faiblesses, c'est notamment le fait, je vais faire court, de déporter dans le calendrier, car une loi de programme, le diable se niche toujours dans le calendrier. La difficulté, c'est que pour faire simple, les 2/3 des équipements, des investissements sont reportés dans le dernier tiers de l'exécution de la loi, c'est-à-dire même pour une partie au-delà de la fin de ce quinquennat. Ce qui, pour donner un exemple, chaque année, on va avoir une augmentation d'un milliard sept des crédits, mais sur les trois dernières années, 3 milliards. Encore faudra-t-il qu'à l'époque, les dirigeants de 2023, 24, 25 aient le courage, les moyens et l'intention de mettre 3 milliards de plus chaque année pour les forces armées, de telle sorte que nos trois armes récupèrent tous les équipements dont elles ont absolument besoin. Car en plus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nos armées, depuis 20 ans, disons les choses, elles ont été éreintées parce qu'elles sont très disciplinées et qu'à chaque fois qu'il y a eu des économies budgétaires à faire, on a été chercher les armées qui étaient celles qui protestaient le moins. Moi, j'ai connu la précédente LPM et j'ai vu mon ancien président, M. Carrère, qui était socialiste et qui a été mettre sa démission dans les mains du président de la République en lui disant « si vous descendez plus bas, je m'en vais ». Voilà, ça se passait comme ça.
Mais en tant que parlementaire, en tant que président de la commission défense donc au Sénat, de quel pouvoir disposez-vous pour vous assurer que la loi sera exécutée telle qu'elle vous allez la voter?
On va avoir le budget. Quand même, chaque année, on vote un budget. Et le budget, je ne le vote pas dans une pochette surprise. Hein. On regarde de près. Et parmi les amendements, justement, que j'ai fait voter, qui, je pense, seront acceptés par la CMP, il y a la volonté de cesser de se voir transmettre des tonnes de rapports dans lesquels vous vous perdez. Moi, j'ai demandé 3 feuilles 21-29-7 dans lesquelles il y a 5 colonnes pour chaque équipement et pour chaque arme. Combien sont commandés, combien sont payés, combien sont en cours de fabrication, combien ont été livrés. Moi, vous me donnez ça, je suis capable de vous dire si la LPM, dans 2 ans, dans 3 ans, elle est appliquée. De la même manière, il y a une clause de revoyure en 2021 qui va nous permettre de savoir où nous en sommes à cette époque-là, des promesses qui ont été consenties cette fois-ci. Donc on a quelques moyens qui sont essentiellement des moyens financiers. Une LPM, c'est quand même beaucoup d'argent.
Ce sont des moyens qui évoluent dans le temps, Jean Joanna. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Parlement est peut-être un petit peu mieux armé, justement, pour faire ce travail de contrôle, notamment sur l'exécution des lois?
Sur l'exécution de la loi de programmation, c'est vrai que annuellement, aussi bien l'Assemblée nationale que le Sénat vérifient l'exécution de cette loi de programmation. Donc finalement, compare à la fois les chiffres qui figurent dans le budget et puis ceux de la loi de programmation militaire. Donc il y a effectivement une possibilité de suivre cette exécution de la loi de programmation militaire, même si d'expérience, je peux vous le dire parce que j'ai essayé de le faire, il n'est pas toujours évident justement de suivre tel ou tel programme d'armement pour savoir un peu où on en est par rapport aux quantités d'équipements commandés ou aux crédits qui ont été prévus, etc.
Ça pose peut-être la question d'ailleurs de la connaissance de la chose militaire et de la formation à la chose militaire. Est-ce que les parlementaires français s'y intéressent suffisamment?
On essaye, rassurez-vous. Rassurez nos auditeurs.
On va voir ce qu'en pensent et Jean Joanna et le général Henri Berthéja.
Non, il y a des parlementaires qui sont des spécialistes tout à fait affûtés de ces questions de défense. Après, c'est pas toujours, mais c'est un peu le cas dans toutes les démocraties européennes. Dans toutes les commissions spécialisées, vous n'avez pas systématiquement des gens qui sont des experts des questions qui sont débattues par ces commissions. Mais vous avez malgré tout systématiquement un petit pool de parlementaires qui s'intéressent à ces questions-là et qui ont une vision générale sur les questions de défense malgré tout.
Henri Berthéja, alors il y a quelques parlementaires qui s'y intéressent, qui sont peut-être compétents. Est-ce qu'il faudrait qu'ils soient plus nombreux ?
Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, parce que le risque de la spécialisation et de l'expertise, en réalité, c'est que la commission, à ce moment-là, perde son rôle politique, qui est fondamental. Moi, il me semble qu'avec, comme c'est le cas à l'heure actuelle, si il y a toujours, mettons, 2 ou 3 oui. sénateurs ou 2 ou 3 députés qui connaissent très bien, ça marche pas si mal.
Et puis ils ont... Mais est-ce que ça, c'est pas le militaire qui parle avant tout? C'est-à-dire finalement, moins il y aura de parlementaires spécialisés dans les questions de défense, moins il y aura peut-être de débats, alors non pas seulement sur les interventions militaires, mais aussi peut-être sur ce qu'est la politique de défense aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'en tout cas, ce soit un sujet qui soit beaucoup débattu, ni dans le champ politique, ni dans le champ médiatique.
Non, c'est un sujet qui est très peu débattu en France, au nom du consensus, comme vous disiez tout à l'heure. On évite d'en parler, et puis ça n'intéresse pas beaucoup. Ça n'intéresse pas beaucoup les médias. C'est pour ça que je suis très content d'être là ce soir. Ça n'intéresse pas beaucoup l'université, et je suis ravi d'avoir près de moi un professeur qui lui connaît bien, mais il est très rare, il fait partie d'un groupe. Aux États-Unis ou au Royaume-Uni, Il y a ce qu'on appelle les war studies, qui sont une spécialité reconnue de l'université.
War studies, ça veut dire études de guerre.
Voilà. Sur la guerre. Et sous toutes ses formes. Et Dieu sait que la guerre en ce moment évolue vite. Et donc, pour nous, c'est un sujet d'ailleurs d'inquiétude et d'intérêt évident. Et puis, en France, par contre, il y a une certaine atonie dès qu'il s'agit de la défense. Voilà. Il y a consensus, paraît-il, donc on n'en parle pas, sauf sous l'angle budgétaire. Et c'est précisément ce qui nous inquiète, nous, les militaires, c'est qu'on en revienne toujours éternellement à cette question budgétaire. Ah, il va falloir trouver un peu d'argent, donc, évidemment, la variable d'ajustement la plus facile, c'est la défense, parce que c'est le plus gros budget d'investissement, donc on peut toujours tailler dans l'investissement, c'est pas gênant.
Faible intérêt, c'est ce que vous avez aussi pu constater, vous, comme universitaire, Jean Joanna. Vous n'êtes pas très nombreux dans ce domaine.
On n'est pas très nombreux, mais c'est en train de changer, hein, notamment grâce à l'activité de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Hein. Il y a à l'heure actuelle toute une génération de jeunes chercheurs, hein, de gens qui sont en train de faire leur thèse, ou qui sont en train de la finir, ou qui l'ont fini il y a quelques temps. Et donc il y a petit à petit, effectivement, un champ comme ça des war studies à la française qui est en train de se structurer et qui laisse espérer qu'effectivement il y ait comme ça toute une production de savoir sur ces questions de défense qui puisse émerger dans les années qui viennent.
Et qui puisse peut-être aussi alimenter du coup le travail et la réflexion des parlementaires.
Vous savez, moi, je défends beaucoup l'idée que le parlementaire peut arriver dans une commission et approfondir un véritable sujet, même s'il était commerçant ou s'il était industriel ou s'il était agriculteur.
Comment vous êtes-vous retrouvé, vous, par exemple, à présider la commission de la défense du Sénat ?
Eh bien, parce que j'y suis depuis longtemps, je dois être à ma 9e année, et donc j'ai fait des années de membre à la belle époque du Sénat, c'est-à-dire pendant les 3 premières années, vous ne disiez pas un mot, parce que sans ça, monsieur de Rohan vous disait, écoutez, mon cher collègue, il faut attendre encore un peu, vous n'êtes pas encore assez mûr. Et puis après, par le jeu des départs et des arrivées, j'ai été amené à être vice-président, puis premier vice-président, puisque j'étais le numéro 2 de la commission du temps de Jean-Pierre Raffarin. Et donc pendant 3 ans, j'ai exercé une partie de ces responsabilités. Et moi, personnellement, je n'avais pas une formation particulière. Je n'ai même pas fait l'IHEDN, ce qui est quelque part monstrueux pour présider cette commission. C'est ainsi.
Institut des hautes études de défense nationale.
Qui forme effectivement là un cercle très informé des choses militaires. Mais mes anciens collègues qui sont des références, Jacques Gauthier, l'ancien sénateur maire de Garches, et Daniel Reiner, son complice socialiste de l'Est, étaient connus de toutes les industries, de toutes les armes et de tous les régiments. Ils sont partis parce qu'ils n'ont pas été renouvelés. Et ben d'autres sont en train de se former. Je peux vous dire que moi, j'ai une équipe de rapporteurs hyper performants et qui ne laissent rien passer et qui savent très bien de quoi il s'agit, y compris quand on veut leur raconter des billevesées.
Et qui vous écoutent peut-être ce soir, donc faut peut-être pas...
Je les salue et je leur rends grâce.
Dire trop de mal à leur sujet. Jean Joanna, dans l'étude de l'IRSEM que j'évoquais tout à l'heure, qui date de 2012, parmi les préconisations que vous faisiez, il y avait notamment celle-ci, développer une culture de contre-pouvoir au sein de la commission de la défense. Alors, je ne sais pas si vous pensiez à celle de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou peut-être aux deux, mais qu'est-ce que ça voulait dire, ça, développer une culture de contre-pouvoir?
L'idée, c'était effectivement de surmonter notamment ces logiques de parlementarisme majoritaire, hein, qui font que souvent le gouvernement dispose d'une majorité dans les commissions en question et que donc ça incite pas forcément les parlementaires de cette majorité à titiller entre guillemets le gouvernement sur la politique de défense qu'il met en œuvre.
Donc, d'où l'importance du Sénat en ce moment.
Donc il y a à la fois cet aspect-là, puis au-delà même de la commission, c'est vrai que je crois que les parlementaires, ils sont aussi le reflet de la société. Donc pour qu'ils puissent se mobiliser sur ce genre de questions, il faut qu'il y ait autour d'eux une attente et une écoute au sein de la société sur ces questions-là, je crois, de la part des médias et puis de la société civile.
Reflet de la société, est-ce qu'il y a suffisamment de militaires ou d'anciens militaires, en tout cas, Henri Bentéja, au Parlement ?
Non, il n'y en a plus. C'est passé, ça. C'est une question qui m'a souvent été posée. On m'avait même proposé à une époque de tenter une deuxième carrière dans ce monde-là. En fait, c'est difficile quand on a été soldat longtemps de changer de métier comme ça, parce que les métiers sont quand même assez différents. Mais oui, il pourrait y en avoir, certainement. Il pourrait y en avoir. Voilà, il faudrait que ce soit parmi les meilleurs.
Bon, on verra pour les prochaines législatures si cette discussion a suscité quelques vocations. Merci en tout cas à tous les trois d'y avoir participé, Christian Cambon, Henri Bintéja et Jean Joanna. Discussion que vous pourrez réécouter sur notre site internet franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre, également des extraits vidéo dès demain matin sur notre site. Merci à l'équipe du Grain, Prune Saez, Antoine Tricot, Marine Beccarelli, Virginie Leduo et Antoine Dulster. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Anthony Thomasson.